la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire ?
En fait, l'exposition, elle s'intitule Process. Et pourquoi Process ? Parce que quand Marie m'a contacté pour faire l'exposition, bah déjà, j'étais très enthousiaste, mais aussi un petit peu, ouf, il faut que je montre des choses. Et puis, je n'ai pas eu envie de faire une exposition de design pour designer ou juste des objets bien propres sur des socles bien blancs. Je voulais faire plus une exposition pour le grand public qui n'y connaît pas forcément grand-chose au design et de raconter un petit peu l'histoire qu'il peut y avoir lors de la création des objets. Parce que les gens, bah, ils se retrouvent face à une chaise, on dessine quatre pieds, une hop. Et j'avais envie de montrer un petit peu toutes ces petites choses et plus montrer l'histoire antérieure que le produit fini, en fait.
Pour ce monde invisible, deux expositions grand tournu. Au CID jusqu'au 3 février. Benoît de Nembourg. Process. Avec Marie Poch et Benoît de Nembourg.
Je ne travaille pas en 69, en 74 et en 78. La première chose que j'ai fait, c'est en 85. Et encore, j'étais tout jeune. Le point de rupture, ça a été les années 80, avec des relectures des signes. Et quand on choisit un espace culturel pour s'exprimer, on apprend via l'école, un milieu, tout un appareillage. Et c'est intéressant, mais c'est pas facile de rester dans une espèce de tradition, une continuité, en même temps de répéter, d'emprunter, d'utiliser le langage des autres où il y a eu des points de rupture qui normalement devraient plus ou moins s'effacer. Donc c'est des rapports qui sont très délicats dans l'utilisation de manière, pour moi et en général, je trouve. Excepté des peintres, ou même s'il y a des peintures, mais c'est des peintures qui sont traitées comme des objets, dans mon cas, au fond de l'expo. Il y a tellement de choses actuellement, et j'en fais partie, hein, je suis dans la nuée, qu'on pourrait presque interchanger les noms ou l'attribution des choses.
Au Max, jusqu'au 10 mars, François Curlet, Crésus et Crusoé, avec Johanna Leroy et François Curlet. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, voir ça qui
est. Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, me stelle.
Le Monde Invisible.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Alors nous sommes au Grand Tournu, magasin au foin.
C'est la première exposition monographique dédiée à Benoît de Nembourg. Par contre, il n'a pas voulu un parcours chronologique. Il a préféré travailler sur des choses qui lui semblaient plus importantes pour lui, c'est-à-dire travailler sur les processus. Ce que Benoît veut faire, c'est pour chaque objet, et en fait, il n'en a pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui a une production vraiment très très développée, mais pour chaque objet, il a trouvé important de montrer toutes les étapes par lesquelles passe un designer avant de concrétiser un projet. Alors, c'est parfois très long, parce qu'entre le premier croquis et l'objet édité ou pas, mais donc on va dire l'objet fini, il y a parfois des pistes qu'on envisage, qu'on aborde, et puis qu'on abandonne. On est obligé de faire demi-tour parce que le prototype montre que l'objet ne fonctionne pas, que ça n'est pas réaliste en termes de coût, qu'au niveau du processus ou de la fabrication industrielle, c'est pas tenable, c'est pas rationnel ou qu'il y a d'autres façons de le faire. Ou on n'arrive pas à convaincre un éditeur, ça peut arriver aussi. Et donc, il faut chaque fois rectifier le tir, il faut chaque fois trouver de nouvelles solutions. Et c'est ça que Benoît veut expliquer ici. Donc, à travers plusieurs exemples, une quinzaine d'exemples, et bien, il montre comment un objet peut évoluer très fort entre l'idée de départ et puis sa matérialisation et la façon dont cet objet est concrétisé.
Je suis implanté à Bruxelles. Je ne voulais pas arriver en tant que designer bruxellois avec mon petit sac à dos. J'avais envie de travailler aussi pour l'exposition avec une, voire plusieurs sociétés du Hainaut, parce que le Hainaut, ben, historiquement, il y a eu beaucoup d'industries, un beau savoir-faire. Mais quand on parle de design en Belgique, mis à part l'institution du Grand Tournu, on n'en parle pas vraiment, en fait. Et c'est ça que je voulais essayer promouvoir un petit peu certaines choses qui sont un petit peu oubliées. Bon, Pyramis n'est pas vraiment oublié vu qu'ils font quand même des choses avec des artistes et tout. Mais on est rentré en contact avec eux et pour leur proposer de faire quelque chose. Ça a marché. C'est un peu les seules sociétés qui ont vraiment voulu faire un partenariat ou qui ont eu assez d'énergie.
Marie Poc.
Benoît est designer au départ. Ceci dit, il a un parcours un petit peu atypique puisqu'il a commencé des études d'architecte et puis très vite il s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose pour lui. Sans doute qu'il se sentait plus à l'aise avec des échelles un petit peu plus modestes. Donc Benoît est quelqu'un qui fait attention aux détails, vous savez, à ces infimes petites choses auxquelles les architectes n'ont pas toujours le temps de faire attention. Et bien Benoît, il va s'intéresser à ça, aux poignées de porte, aux serrures, aux angles, à la façon dont les objets trouvent leur place dans un espace. Et donc très vite, il arrête ses études d'architecture et il se forme au design industriel. Donc aujourd'hui, Benoît travaille en tant que designer industriel, mais il complète cette activité par un travail d'architecte d'intérieur où il va à la fois dessiner, organiser, articuler des espaces, les habiller, que ce soit de couleurs, de textiles, de papier peint, de bois ou d'autres matériaux. Donc il joue sur les matériaux dans l'espace, mais il va aussi placer les objets, trouver les dialogues entre eux et puis leur trouver leur juste place dans un espace donné.
Et l'idée était de créer toute une petite collection de petits réceptacles destinés dans un premier temps au bureau, à l'univers du bureau. Puis on s'est dit par la suite que finalement ça pouvait très bien aussi convenir à la cuisine. On est parti de petites maquettes en carton, on est passé par de la terre vraiment pour étudier la forme. Parce que dans mon travail, ben, l'ordinateur est important. Mais personnellement, j'ai besoin de travailler en maquette, de toucher les volumes en fait. Ce sont des petits contenants qu'on peut vraiment superposer. Et la chose, c'est qu'à ces contenants-là, qui ont la fonction d'accueillir des petits objets, on leur apporte une fonction supplémentaire via le couvercle, en fait. C'est la fonction qui induit vraiment la forme de chaque petit objet, en fait. Benoît Denebourg. Designer et architecte d'intérieur. Je préfère à la limite créateur que designer, c'est déjà trop directif comme chose. La grosse partie de mes études à Saint-Luc en architecture d'intérieur. Et au préalable, j'avais fait de l'architecture pendant 2 ans.
Et vous enseignez ?
À la Cambre, en architecture d'intérieur.
Qui doute, et c'est, je le dis de façon positive, c'est une qualité énorme. On manque de doute en général. On est dans une société où on a l'impression qu'il faut toujours, pour avancer, avoir confiance en soi, avoir le dernier mot, savoir où on va. Hein, on entend ça dans la vie sociale tous les jours. Eh bien Benoît, c'est quelqu'un qui, à l'inverse, va chaque fois se remettre en question. Et en fait, c'est une qualité parce que ça l'empêche de s'installer dans des routines, dans des certitudes qui font qu'on n'évolue plus dans ses recherches. Et donc, il va chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier, il va chaque fois réinterroger son projet en se demandant est-ce que c'est la meilleure solution, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de réalisation, est-ce que certaines techniques sont véritablement adaptées, est-ce que la fonction est tout à fait recherchée, est-ce que l'ergonomie est tout à fait aboutie. Et donc effectivement, c'est quelqu'un qui va parfois faire complètement demi-tour ou abandonner un projet pour éventuellement le reprendre après, parce qu'il y a ce doute qui vient s'insinuer. Et puis c'est aussi une forme de modestie, et je trouve que dans ce métier, la modestie est une qualité qui manque parfois.
Au CID, jusqu'au 3 février, Benoît Denebourg, process, avec Marie Poc et Benoît Denebourg.
Là, on passe en Angleterre. On a deux séries d'objets. La première série d'objets qui s'appelle Another Desktop Series. C'est une collection qui a été créée pour la marque Another Country, basée en Angleterre, à Londres. Ils fabriquent localement. Ils m'avaient donné leur briefing, qui était de créer une gamme d'accessoires de bureau. Et très vite, ben, je suis parti sur l'idée de travailler avec des volumes très nets, très, très secs comme ça, un peu comme des éléments en aluminium qui auraient été extrudés. Et l'idée, là, c'était vraiment de travailler des formes parfaites, faire ressortir d'autant plus les dessins, les motifs du bois. Et alors, ces éléments en bois viennent accueillir des éléments en laiton qui, eux, vont apporter la fonction à l'objet. Ici, en l'occurrence, c'est un plumier. Ici, c'est un plumier pour ranger les bics, mais également pour placer des notes ou mettre en évidence une photo ou quoi. Et là, c'est dû au fait que le poids de la tôle va venir bloquer les petites notes, les papiers. Déjà, chaque chose a sa fonction. J'aime pas tout ce qui est fioritude et tout. J'aime bien que chaque chose ait sa place et sa fonction. Et que si possible, chaque chose ait sa propre fonction, mais amène quelque chose de supplémentaire, en fait. Donc ici, ben, c'est à la fois un réceptacle. Vu qu'il y a son poids et tout, ben, ça induit une autre fonction.
Un chercheur, c'est une tête chercheuse, et c'est quelqu'un qui doute aussi.
La Pipeline et la Donald, ce sont des pièces qui ne sont pas éditées, qui sont restées, on va dire, à l'état de prototype. Comme il y en a quelques-unes ici dans la salle. Mais je trouvais que le processus ici était intéressant parce que j'ai retrouvé des vieilles maquettes que j'avais faites pour montrer un petit peu le cheminement par lequel je suis passé, avec les premières maquettes en papier, les premières maquettes ou prototypes en bois pour finalement arriver au premier prototype fonctionnel et essayer de décomposer un petit peu la lampe pour montrer un petit peu au public ce à quoi on doit faire attention quand on crée des objets comme ça, que ça vient pas comme ça, on envoie juste des plans, non, il faut tester et tout.
Un objet, malheureusement, a très peu de chances d'avoir une existence réelle sur le marché s'il n'a pas d'éditeur. L'éditeur, son rôle, ça va être de trouver et de financer une production assez importante que pour trouver un prix à l'unité qui soit raisonnable, qui soit rentable pour lui déjà, pour le designer, pour l'objet. Et donc si l'éditeur ne prend pas en charge la production et ensuite la diffusion à travers un réseau de magasins de l'objet, il y a très très peu de chances que cet objet survive encore en autoproduction. Donc à l'inverse de l'édition, l'autoproduction, c'est la démarche du designer qui décide de faire fabriquer lui-même ses objets. Il a rarement les moyens financiers de faire produire 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 objets. Donc il va se retrouver avec un coût à l'unité qui va être trop élevé pour que l'objet soit réellement accessible. Et donc il va être assez limité déjà par un prix de vente qui va être fort élevé. Et en plus, comme il n'a pas nécessairement ni le temps ni le réseau pour vendre dans tous les magasins d'Europe, on va dire, puisqu'on travaille quand même souvent déjà au moins à l'échelle européenne, et après au niveau mondial, eh bien, il va se retrouver avec 10, 11, 12 points de vente, ce qui n'est pas assez. Il faut multiplier ça par 100. Et donc ça c'est le boulot de l'éditeur. Et c'est pour ça que les objets en autoproduction, c'est très très courageux. Ça a un côté assez exclusif que les gens apprécient certainement, mais il faut pouvoir se l'offrir hein, du point de vue du consommateur. Et puis il faut pouvoir suivre tout ça aussi. On dépasse le rôle du designer et c'est évidemment très compliqué.
Et là, c'est la table Cruise, table basse. J'avais pensé à un souci que j'avais eu quand j'étais étudiant pour un travail, pour un projet. C'est que j'avais besoin à l'époque d'une tôle bien cintré, bien clean. L'artisan avec lequel j'avais l'habitude de travailler n'avait pas de cintreuse. Et il m'a dit, si tu veux, je peux te faire des plis pour venir cintrer la tôle. Bon, moi, ça ne me convenait pas à l'époque parce que je voulais vraiment une surface bien propre. Et c'est quand j'ai ressorti cette table-là, j'ai ressongé à ce problème-là. Et je me suis dit, c'est vrai que toute cette succession de plis permettait d'avoir une forme courbe ou conique. Et j'ai eu l'idée de réexploiter ce qui avait été à l'époque un problème ou quelque chose qui ne m'intéressait pas. J'ai eu l'idée de le ressortir pour cette table aussi et de faire des recherches sur les plis, en me rendant compte que quand en créant la base comme ça en aluminium avec cette succession de plis, ça nous permettait d'avoir une pièce où la lumière vient jouer dessus, où il y a comme des dégradés de couleurs, surtout si on utilise de la peinture mate. Et donc c'est ça, c'est un souci technique qui a donné naissance à un autre objet en fait. Là, c'est un test qui n'a pas marché. J'aurais bien voulu le pousser plus loin, mais j'ai vraiment encore eu le temps. C'était qu'on arrêtait les plis avant la fin de la largeur. Déjà, ça n'a pas été facile de trouver la société qui a bien voulu le faire parce que ça les ennuyait de changer un petit peu la façon de travailler avec leur machine. Mais le problème, c'est que quand on pliait, ça crée une déformation. Et j'espérais qu'on ait une courbe un peu plus, qu'on puisse un peu plus gérer. Mais finalement, on ne sait pas du tout la gérer. Et donc, j'ai laissé tomber ça parce que je voulais, au final, associer trois éléments pour avoir un élément bien conique. Mais ça ne marche pas. Donc, j'ai laissé un peu tomber. Je suis parti vers le pli un peu plus traditionnel. Et là aussi, c'est de nouveau aussi comme la, la pipeline, un travail plus de recherche sur les matières et sur, sur les formes. Là, on s'est bien amusé, c'est un stagiaire que j'avais à l'époque. Je ne sais plus c'était qui, c'était Ariane, qui lui était très bricoleur, très manuel et tout. Et dès l'entrée de jeu, j'ai même pas dû lui demander, il a commencé à concevoir des petites machines, des petits moules, des petits gabarits pour venir faire des tests et tout. Et c'est pour ça que je présente cette lampe ici, parce qu'il y a vraiment toutes des petites... Et j'en ai encore plein, mais je ne pouvais pas tout présenter. Toutes des petites choses qui ont été faites pour la création. Et ici, en fait, l'idée, c'est qu'on a un cylindre en bois dans lequel est intégré les LED, qui est imbriqué dans un disque. Et le disque peut coulisser, en fait, sur la tige, ce qui permet de faire varier l'inclinaison. Donc ça sert à la fois de contrepoids ou de pied, mais ça sert aussi à orienter la lampe, en fait, et de pouvoir jouer avec. Et à côté, on a Butterfly qui a été créé à peu près au même moment. Et là, c'est toute une section de... Ce sont toutes des lames de bois qui sont découpées à la CNC, et il y a tous des fraisages assez spécifiques à l'intérieur pour permettre le passage du câble dedans. Et là, l'articulation est inspirée des couteaux papillons. C'est ce qui a donné lieu au nom, Butterfly. Le gros du travail, c'est situé au niveau justement de cette articulation, faire en sorte que le câble électrique, il passe du pied fixe à l'autre côté, sans sortir, je voulais que tout soit interne, et qu'il ne se fasse pas sectionner à chaque manipulation. Et il y a eu beaucoup de fils sectionnés. De bureau, de table qui existe avec une tête articulée ou deux têtes articulées, et puis par la suite on a décidé de sortir la grande sœur qui aussi avec cette tête articulée.
Et on se trouve devant une lampe.
C'est une lampe sur pied avec deux petits bras orientables qui sont des points lumineux qui permettent d'éclairer vers le haut si on veut éclairer un tableau par exemple, ou qui permettent d'éclairer vers le bas comme une liseuse.
Au CID jusqu'au 3 février. Benoît de Nembourg, process avec Marie Porc et Benoît de Nembourg.
On a un axe central et puis on a une petite barre perpendiculaire et deux bouts de tuyaux comme ça sur les côtés. En fait, cette forme, elle évoque les cheminées, vous savez, les cheminées en éternite qu'on voit au-dessus de nos toits en Belgique, et qui permet en fait d'avoir deux échappées de fumée latérales qui permettent à la fumée de s'évaporer, mais qui empêchent l'eau de rentrer dans le fût central et de venir inonder la cheminée. Alors donc, elle a une forme assez, un petit peu comme un pictogramme, donc assez synthétique, géométrique. Elle est très simple, très épurée, efficace. Elle ne demande pas beaucoup de matériaux. Il y a juste ce qu'il faut, l'axe central, le pied, la toute petite barre perpendiculaire, horizontale, et les deux petits fûts, les deux petits cylindres qui diffusent la lumière, avec une source de lumière qui a évolué. À l'époque, le LED n'existait pas encore, et on le voit dans l'évolution des différents prototypes. Aujourd'hui, on utilise des LED, donc c'est une lampe qui est tout à fait économique. Ce produit est parfait pour le marché. On peut la mettre en vente demain, il n'y a aucun défaut. Les méthodes de fabrication pourraient être assez simples, ça pourrait être produit à un prix tout à fait accessible. Pourquoi cet objet n'a jamais trouvé d'éditeur, ça je comprends pas. Ça fait partie des très belles réalisations de Benoît et qui sont encore là en devenir.
Une idée d'exposition sur les invendus?
Ce serait génial, comme en architecture. Souvent, quand on expose les résultats d'un concours et qu'on expose les non primés, les non réalisés, c'est souvent là que c'est le plus intéressant. Et d'ailleurs, je vois que les architectes, sur leur site internet, mettent de plus en plus des projets non réalisés. Ça leur a pris beaucoup de temps et parfois, il y a des idées formidables. Et tout ça, ça participe à la recherche. C'est important, c'est fondamental, hein, les non réalisés.
Donald, qui a été faite peu de choses près à la même époque que la pipeline, avec l'envie de travailler avec le tube de métal et sa déformation. Et ici, on voit le premier gabarit qu'on a dû concevoir pour pouvoir souder en fait la pièce ensemble. Deux éléments en tube d'acier qui ont été cintrés. Le premier qui consiste les pieds avant, le support de l'assise, l'autre pied avant. Et alors l'autre pièce, c'est les pieds arrière et le dossier. pour pouvoir les maintenir ensemble de façon correcte, on a dû vraiment créer un gabarit. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans mon travail, c'est pas juste créer l'objet, mais c'est aussi créer ce genre d'astuces, ces petits outils qui vont servir à la réalisation de l'objet en fait. Les deux objets sont ensemble, ils sont juste soudés à quatre endroits. Mais il y a un enchevêtrement de choses qui vont venir créer une triangulation un petit peu comme en architecture, ce qui va créer un nœud très solide. Alors bon, même si la chaise garde une certaine souplesse parce que c'est du métal et tout, mais elle est très solide, la technique va devenir l'élément majeur ou l'élément significatif, on va dire, de l'objet.
Marie Poch.
Oui, c'est exactement ça. Donc le flap vient de sortir à intérieur. Là, il est édité par une marque belge, Mood.
Quand vous dites intérieur, Marie Poch, vous pensez...
Intérieur, c'est la biennale intérieure, en fait, à Courtrai. Un projet très, très récent, mais qui a pris quelques années aussi avant d'être abouti.
Toute une analyse sur le fait qu'actuellement, les gens vivent dans des espaces de plus en plus petits, vu la hausse des loyers. Ils vivent de plus en plus en colocation, donc... Conclusion, c'est qu'il y a vraiment un manque de place et qu'il faut essayer que les objets puissent permettre de gagner de la place. Donc je suis très vite parti vers l'idée de revisiter le secrétaire classique. Mais ce qui m'ennuie dans le secrétaire classique, c'est qu'il est utile que quand on l'ouvre, il est bureau, mais quand on le ferme, on se retrouve avec une boîte soit accrochée au mur ou sur pied, qui reste une boîte qui est un petit peu dans le chemin. Et ici, j'ai voulu lui amener une fonction supplémentaire, c'est que quand l'objet est fermé, c'est qu'il serve aussi de range-magazine, en fait, ou de range-livre. Donc l'objet n'est pas juste fonctionnel quand on l'utilise en tant que bureau, il est aussi fonctionnel ici en range-magazine. L'objet avait vraiment son sens dans le sens où il faut retrouver de la place. Si on ne l'utilise pas, que ça reste une boîte qui est dans le chemin, je trouve que le pari n'est pas gagné. Là...
Magazine ou ordinateur portable ?
Magazine ou ordinateur portable, effectivement. Une des photos que j'avais faites au tout début pour leur montrer le projet, c'était ça, c'était fermé avec les magazines et le portable qu'on n'avait pas utilisé.
Et le bureau ouvert, il y a une prise ?
Il y a une prise et la connexion USB aussi.
Ouais. Et la lumière vient comment ?
On claque deux fois dans les mains, non, je rigole. Il y a un capteur magnétique qui est placé juste derrière la planche, donc... Et mon fils, je lui dis que je fais ça par tour de magie.
Et qui fonctionne parfaitement, la tablette est tout à fait en équilibre. Alors, quand on referme ce secrétaire, Benoît était toujours un petit peu chagriné par l'idée d'un objet qui est fermé et qui n'a finalement plus aucune fonction. En diminuant la hauteur de cette tablette, tout simplement, il dégage la partie supérieure de ce bureau mural et donc il permet, en fait, dans cette partie qui est ouverte, de disposer toute une série de choses, des magazines, des livres ou des choses décoratives, on pourrait mettre des branches d'arbres. Mais donc il y a une partie, on va dire, dispositif d'expo qui est contenu dans ce secrétaire.
Il a quel âge ?
Il a 5 ans. Et ici, c'est un petit peu... Il n'y a pas toutes les maquettes et tous les prototypes parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais là, c'est tous des prototypes, tous des tests qui ne fonctionnent pas et qui font énormément de bruit. C'est parce qu'au début, l'idée formelle était venue assez vite. Et puis après, le souci et toute la réflexion qu'il y a eu, ça a été de trouver une rotule, une articulation déjà assez costaud pour supporter la charge de la tablette, surtout qu'elle est placée de telle sorte qu'il y a une force de levier est extrême là-dessus.
Donc Benoît de Neubourg a été invité à faire son métier, donc faire de l'architecture d'intérieur à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on lui a confié la rénovation de la cafétéria du Grand Ornu. Alors en tant qu'architecte, la première chose qu'il a observée, c'est l'espace en tant que lui-même. Il était un petit peu compliqué dans la mesure où c'était un espace qui est très haut, l'acoustique n'était pas très bonne. Bon, le mobilier était un petit peu daté, on va dire, daté des années 80, mais ça c'était accessoire. Il a surtout voulu travailler sur cet espace. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une plateforme 3 degrés de hauteur différente pour surélever l'espace de la cafétéria, pour aller chercher les vues, les perspectives des 3 fenêtres de la cafétéria qui étaient placées assez haut. En fait, elles sont placées à peu près à 1,70 m, ce qui est beaucoup trop haut par rapport à la vue dont on souhaiterait profiter. En remontant la hauteur de 80 cm, la hauteur du sol, les tables se trouvent maintenant à un niveau qui permet de profiter de la perspective et de la vue vers l'extérieur. Intégrer le bois dans cet espace qui est assez minéral, hein, puisqu'on est sur un sol en pierre avec des murs en briques, ça réchauffe l'atmosphère aussi. Ça donne quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus familier. Et puis ça permet aussi d'absorber le bruit. Donc c'est un travail aussi sur l'acoustique. Donc le métier d'architecte d'intérieur doit intégrer tout ça. C'est pas uniquement sélectionner du beau mobilier ou créer du beau mobilier. C'est pouvoir intégrer aussi des notions comme le son, l'atmosphère, bien entendu la lumière et ce genre de choses. Ensuite, il a, toujours dans cette conception spatiale, il a créé un garde-corps donc pour assurer la sécurité de l'espace le plus haut, hein, où on pourrait tomber. Il crée une étagère qui sert à la fois de garde-corps et qui permet aussi de montrer certains objets de la boutique, donc d'étendre la superficie de la boutique. Il crée une banquette qui permet de faire certaines animations. On disposera des coussins plus tard, donc de se relaxer dans le petit coin là-bas. Il crée cette grande table d'hôtes qu'on utilise, nous, pour organiser nos workshops, donc les activités pour les enfants, les deuxièmes samedis du mois. Kids à l'œuvre se passe là, sur cette grande table d'hôtes. Et puis, on voit que ça fonctionne très bien et que les gens sont ravis de se réunir autour de cette grande table, pour lesquels il a choisi du mobilier qui n'est pas le sien. Donc ça, c'est encore le côté très modeste de Benoît. Il a préféré travailler avec une entreprise locale, l'entreprise de Claire, qui est basée ici dans le Hainaut, et qui fabrique localement des chaises d'école. Donc ce sont des chaises d'écoliers, c'est un modèle que tout le monde connaît, un modèle assez, assez standard, mais très facile, empilable, résistant, léger, donc facile à utiliser.
Au CID, jusqu'au 3 février, Benoît de Nembourg, process, avec Marie Porc et Benoît de Nembourg. Au Max, jusqu'au 10 mars, François Curlet, Crétus et Crusoé, avec Johanna Leroy et François Curlet.
Sur le fait d'utiliser des éléments qui nous environnent, qui sont attrapables à la main, en fait c'est un peu comme les poissons qui passent, tout est à portée de main. Tous les signes propulsés dans l'espace public et privé sont à portée de main, donc c'est lié à ça, on est tous baignés par ça, et le fait de les traduire... comme on va dire une forme de poésie, après on peut mettre plein d'adjectifs ou autre, ce qu'on veut, mais aussi de travailler, de produire sans vraiment atelier et suivi, sans reproduire non plus la facture d'une PME ou d'un atelier de fabrique pour récupérer ces choses-là, mais de rester de manière très légère et vagabonde, la manière de vivre. Et ça, je ne veux pas recréer, en utilisant ces signes, je me vois plus comme un espèce de... Oui, un vagabond, quoi.
Au Max, jusqu'au 10 mars, François Curlet, Crétus et Crusoé, avec Johanna Leroy et François Curlet.
Et j'ai pas envie d'être saisi avec un attirail technique de production qui fait que finalement je recréerais, je ferais une espèce de poupérus de critique des signes en réinstallant un mode de production avec un statut d'artiste. Et parce que même le statut d'artiste, c'est quelque chose qui est aussi questionnable comme l'activité, l'inscription, le fonctionnement des expositions, les collectionneurs, les galeries, tout ça, le marché. Et donc tout ça, je trouve, participe de la même tambouille. Il y a un appareil critique. Et donc de toute façon, à un moment où on agit, on choisit un mode d'expression... On a forcément des précédents dans la société, dans l'histoire, et donc ils sont catalogués et on rentre dans un champ. Alors, en l'occurrence, ça peut être un champ artistique avec un langage plastique qui permet de dire des choses, et avec une histoire, un historique et tout ça.
Johanna Leroy, co-responsable du service culturel du Max.
J'aime bien le rapport, disons, poétique, même si je connais l'histoire de l'art, les avant-gardes, j'aime beaucoup ça, etc. Mais après, on peut un peu rentrer comme dans l'histoire de la philosophie, à faire des citations et à jouer... en porte-à-faux ou contre ou avec. Et donc on le fait toujours un peu, mais quelque part on devient très vite normé. Actuellement, après la rupture des avant-gardes, la création de vocabulaire qui permettait de défaire les choses par des langages très simples. Et finalement, ça commence à devenir des recettes. Ces langages très simples sont devenus des recettes. des recettes pour appliquer des choses de manière expresse. Et donc c'est très compliqué. Là aussi, il y a un oxymore dans le temps où on est. Donc, dans ce rapport-là, quoi. Et donc, ouais, j'aime bien le rapport poétique plutôt que... Après, il y a un champ artistique et voilà.
Un artiste qui s'amuse avec le langage.
Un artiste qui s'amuse avec le langage, avec les objets, avec tout ce qui nous entoure et qui nous parle, toutes ces choses qui nous arrivent. Je pense par exemple au logo de magasins de grande distribution qu'on ne peut s'empêcher de voir, à la publicité qui nous entoure, avec lesquelles il va s'amuser, parfois en les détournant, parfois en les assemblant, pour créer un sens nouveau, parfois visible au premier regard, parfois il faut les laisser rentrer en nous un peu comme les rêves, et peut-être retrouver tous ces rebuts de notre société un peu à la fois.
On est dans une forme de nuée de production qui se construit sur une rupture, les ruptures qu'il y a eu surtout dans les années 60 et 70, et donc on est dans un rapport très compliqué. D'essayer de faire avancer les choses, d'être libre, d'utiliser des langages simples pour parler clairement, et en même temps d'être dans un rapport pompier en utilisant des recettes qui sont faciles à monter. C'est la grande ambiguïté actuelle de manipuler des choses très simplement, de les brandir, de mettre son nom dessus, et de prétendre à parler de manière singulière, avec un historique qui est très proche, et dans une société où il y a un flux continu et surabondant. Le mot poétique, peut-être la manière de s'y retrouver, c'est... la syntaxe.
Mais quand on écoute François Curlet, même quand il parle, il dit des choses pas claires.
Et pas forcément une singularité ou une grande trouvaille de langage plastique. Voilà ce que j'avais à dire de manière générique.
Je pense qu'il n'a pas envie d'être clair. Il aime bien qu'il y ait un certain flou autour de son travail et puis sans doute ça permet à chacun de se l'approprier. S'il était trop clair, il ne laisserait plus de place au rêve. Or, c'est une œuvre qui est poétique. Il a dit tout à l'heure qu'il aimait le mot poétique, que chacun de ses objets ou films ou peintures était comme des sortes de poèmes et à chacun de se les approprier comme il en a envie. Si le sens... et incisif, alors peut-être ça ne laisse pas suffisamment de place au visiteur ou à la personne qui est en train de regarder son œuvre. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui veut échapper à un certain formatage, à une certaine image de l'artiste. Il se qualifie comme un vagabond, quelqu'un qui ne travaille pour personne si ce n'est pour lui. Il imagine ses petites idées, parfois c'est des graines qui vont se transformer, parfois elles restent juste à l'état de projet. Et finalement, je pense que ce soit l'un ou l'autre, ça l'amuse tout autant. Il n'y a pas forcément cette nécessité d'un aboutissement. Après, derrière ce rêve, derrière cette idée d'onirisme, cette manière qu'il a de nous emmener comme ça dans un songe, il y a plein de choses qui remontent. Une critique, une espèce de satire sociale à sa manière du monde dans lequel on vit, des signes avec lesquels on doit vivre, de la société de consommation, du capitalisme, du travail. C'est quelqu'un qui n'aime pas le travail, hein. C'est plutôt un flâneur, quelqu'un qui fait les choses comme ça de manière en privilégiant l'amusement, la légèreté. Il ne faut pas que ça devienne non plus, à un moment donné, trop...
C'est juste un oxymore, c'est tout, quoi.
Trop lourd.
Bon, c'est sur l'idée de statut non stable, permanent pour tout le monde, de jeu de rôle, voilà, une chaîne de production, une chaîne culturelle, de tout, les journalistes, les musées, les artistes, et machin, enfin, les gens qui travaillent dehors, tout ça est une chaîne, c'est les petits-enfants à la croix de bois, une grande chorale. Tout le monde se... voilà. Tout le monde fait avec, hein. Voilà, on n'a pas le choix.
Pourtant, il participe de l'institution puisque nous sommes au Max et il expose une rétrospective.
Oui, tout à fait, c'est contradictoire. Comme l'est souvent la figure de l'artiste. D'une part, il est le vagabond, Crusoé, hein, puisque le titre de l'exposition, c'est Crésus et Crusoé. Mais évidemment, il est sans doute un peu les deux. De l'autre côté, il y a Crésus, le riche roi. Dans son travail, on trouve souvent ce mélange entre les deux. Une volonté de rester un vagabond et puis un jeu sur parfois l'objet chic, si on regarde ses peintures, qui sont faites sur du cuivre, qui ont été préparées comme s'il s'agissait de toile. Quand on les voit de loin, c'est un objet qu'un riche collectionneur au bon goût pourrait placer dans un loft au mur blanc. Et à la fois, quand on s'approche, il y a quelque chose de l'ordre du rebut, puisque pour réaliser les motifs sur ces toiles, il a utilisé des chutes industrielles, des chutes métalliques qui proviennent de différentes usines, qu'il a utilisées comme pochoirs pour en faire des espèces de graphes. Donc il y a aussi une forme d'énergie de la rue, de quelque chose de plus... de moins chic, quelque chose qui est de l'ordre du déchet. Il joue aussi beaucoup avec le déchet, ce qu'on ne regarde pas a priori et qu'on va réutiliser pour aussi mettre en évidence un sens nouveau. Comme tout à l'heure, je parlais du capitalisme, mais voilà, ces chutes d'objets industriels, ces restes, ces rebuts, lui va aller chercher à en faire quelque chose. Comme quand il réimagine la fable de Willy Wonka, un tas de plaquettes de chocolat dans des boîtes en carton, accompagnée par une série de photos où on le voit en Suisse dans une usine de chocolat. Il a interrompu la chaîne. Les dames qui travaillent dans cette usine s'arrêtent. Le temps de déposer dans un des paquets de chocolat une feuille d'or de 18 carats. Donc c'est la fable de Willy Wonka sans le merveilleux, à l'ère du capitalisme.
Je ne tiens pas compte de la forme, ça ne m'intéresse pas. Je vais chercher des sujets, des motifs dans la société, comme dans une planche encyclopédique, que ce soit urbain ou domestique. Je pioche là-dedans parce que c'est des choses qui arrivent et je les ralentis en les modifiant. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une recherche stylistique. S'il y a une identité qui peut se dégager, elle est syntaxique, je pense, comme une parole ou un rythme.
Alors la moto renversée, c'est amusant de connaître son titre. Et ça, je pense que c'est important dans l'œuvre de François Curlet, parce que les titres font souvent mouche.
De montrer, pas montrer. De faire beaucoup, pas beaucoup.
Elle s'appelle Toast Cannibal. Et donc il s'agit d'une moto trial renversée sur une tartine de pain de mie. Donc un objet qui ressemble à une tartine de pain de mie, mais taille géante, sur laquelle repose la moto. C'est assez symptomatique de sa démarche. On voit bien comment il colle les objets avec cette œuvre. Puisque la moto est simplement déposée sur la tranche de pain. Et ce qui crée le lien entre la moto et la tranche de pain, c'est une tache qui apparaît sur ce pain de mie, qui est à la fois le miel ou le sirop d'érable qu'on étale sur sa tartine et qui est à la fois l'huile ou l'essence qui s'écoule de la moto. Hier, il a dit que c'était comme un crash moelleux. Donc c'est ce genre d'idée qu'il réussit à mettre en évidence en associant des objets radicalement différents. Parfois, on ne perçoit pas le sens immédiatement, et parfois, avec des objets comme celui-là, je pense que c'est assez frappant. Chacun peut le décoder. Et donc il est associé dans une salle avec... une grande peinture de François. Donc c'est François Curlet couché dans un lit, affublé de pattes et d'une crête de coq. Et c'est un tableau à la mode des anciennes affiches de cinéma. Elle a d'ailleurs été peinte par un monsieur qui était spécialisé dans les affiches de cinéma. Et François a réalisé cette peinture alors qu'il était en Belgique depuis peu de temps, en 1991. À Liège, et le musée de la Boverie était fermé pour travaux. Et donc, l'artiste et sa peinture devaient dormir dehors. Donc, il s'est représenté en train de dormir. Et l'œuvre était plantée à l'extérieur du musée. Il avait choisi de s'affubler de cette crête de coq et de ses pattes de coq en référence au coq wallon. Donc c'est comme s'il prenait les objets, il a souvent cette image, et qu'il jouait avec eux comme des pelotes de laine, comme quand on regarde un chat qui joue avec une pelote de laine. Il joue avec l'objet, il le tourne dans tous les sens pour en faire sortir un maximum d'idées. C'est-à-dire il y a le sens de chaque objet, ce que chaque objet nous dit par sa fonctionnalité, mais il y a tout ce qu'il peut induire, tout ce qu'il peut dire à côté de ça. D'ailleurs, c'est amusant, il y a une de ces anecdotes qu'on a utilisée pour le guide pour les enfants, qui m'avait frappée quand je l'avais rencontré une des premières fois. Il m'avait dit, quand j'étais enfant et que j'étais dans ma chambre, je regardais la prise électrique et je voyais un arbre. Parce que quand je regardais cette prise électrique, je voyais le pylône électrique, et puis la centrale, et puis le barrage, et puis le lac, et autour de ce lac, les arbres. Et donc c'est vraiment cette idée que pour lui, un objet, il a son sens lié à sa fonction, et puis il a tout ce qu'il peut induire au-delà de ça, tout ce qu'il peut nous raconter potentiellement.
Le côté belgoïde, ça m'amuse, parce que ça c'est toujours pareil, en France je suis belge, en Belgique je suis français. J'aurais été marocain, ça aurait été pareil avec le Maroc, enfin bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai passé ma vie d'adulte en Belgique, je suis particulièrement à l'aise avec une plasticité, on pourrait dire, cérébrale, belge, qui convient plus qu'un côté très cartésien, et voilà. Mais c'est tout, je prétends pas être belge. Hein. Je voudrais pas faire un casse.
Je reste modeste.
Ouais, je reste modeste.
Je reviens au titre de l'exposition, Crésus et Crusoé. Mais le « et », ce n'est pas « et », mais c'est « esperluette ».
Une esperluette. Les titres des œuvres de François Curlet sont assez importants. Il joue avec les signes. Peut-être que ça apportait quelque chose de plus de choisir ce signe, ce symbole, plutôt que le « et » écrit « et ». Ou peut-être que ça signalait de manière différente le lien qu'il voit entre Crésus et Crusoé, mais aussi la contradiction dans le rapprochement de ces deux termes, de deux personnages antagonistes, mais finalement renfermés dans sa personnalité, dans ce qu'il incarne en tant que figure d'artiste.
Il y a aussi un changement de vocabulaire qui s'est installé. Alors déjà, le mot carrière,
oui.
Moi, j'ai jamais voulu travailler de ma vie. Alors, carrière, je suis content d'exposer, de pouvoir bénéficier de choses, de m'exprimer, de dire qu'on est content quand on dit qu'on sait bien, qu'on aime bien, voilà, ça fait plaisir. Mais carrière, déjà, je cherche pas à travailler. Mmh. Enfin, je cherche pas à être embauché. Je travaille pour personne. Et alors après, il y a des termes aussi qui ont glissé, qui sont plus récents. Alors ça, ils sont pas heureusement encore dans le langage, je crois, des conservateurs, des directeurs de musées ou d'autres curateurs. C'est, on est passé de collectionneur en terminologie chez les marchands d'art, qui sont parfois utiles, hein, à client. Donc ils disent plus collectionneur, ils disent des clients. Donc ça en dit long, quoi.
Avec des consonnes qui se rassemblent et se ressemblent.
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment ce jeu sur les consonances. Ça me fait penser à une œuvre qui est dans l'exposition qui s'appelle Crustisme 1, 2, 3. Et donc, il s'agit de trois objets et il en parle comme d'objets onomatopées. C'est-à-dire que chacun de ces objets renvoie un son qu'il pourrait produire. Le titre de l'ensemble de ces trois objets, c'est crustisme. Et dans ce terme, on retrouve l'idée de crust, quelque chose de croustillant, avec les R qui sonnent. Et on retrouve aussi le isme, comme dans cubisme, modernisme, surréalisme, que sais-je. Donc c'est vraiment l'association d'un son, d'une onomatopée, et puis d'une fin de mot qui renvoie à toute une série de choses dans le monde de l'art, mais plus, largement dans le monde de l'intellect ou de ce qu'on considère être intellectuel. Et le sens est fondamental dans son œuvre. Dans les titres, comme on vient de le voir ici, Crésus et Crusoé, Crustisme, mais aussi dans ses films, par exemple, où la musique qu'il choisit est fondamentale et ajoute véritablement quelque chose à l'image qu'on est en train de regarder. De la même manière que la Gloria de brebis qui nous accompagne dans les escaliers du Max, eh bien, tout à coup, elle fait référence à la transhumance. Ce qu'on entend, c'est les brebis qui bêlent ensemble, comme si elles rentraient dans leur champ ou à l'endroit où elles dorment. Et puis ça accompagne aussi le public qui passe d'une salle à l'autre, qui avance comme ça dans l'espace du musée. Peut-être en troupeau, il y a sans doute quelque chose de légèrement satirique dans sa démarche, toutefois sans jamais vraiment passer le cynisme, je pense. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui, avec une forme d'humour et de légèreté, fait la critique d'une société, de ses modes, mais aussi du monde de l'art, et sans doute en particulier du monde de l'art contemporain, de ses codes, de ses acteurs, de ses institutions, collectionneurs ou clients, comme semblerait-il les galeristes les appellent maintenant. C'est la synthèse d'une jaguar type E et d'un corbillard, et c'est une référence à un film des années 70, un film qui s'appelle Harold et Maude, qui raconte la rencontre entre un jeune homme suicidaire et une vieille dame solaire à l'occasion d'un enterrement où ils participent l'un comme l'autre sans connaître la personne qui est décédée.
Au Max, jusqu'au 10 mars, François Curlet, Crésus et Crusoé, avec Johanna Leroy et François Curlet.
Harold et Maude, c'est un film qui a été tourné dans les années 70, dont les deux personnages principaux sont un jeune homme aux tendances suicidaires et une vieille dame qui, elle, est plutôt d'un caractère optimiste. Ils se rencontrent à l'occasion d'un enterrement auquel ils n'étaient pas conviés, mais auquel ils participent comme ça, par forme d'amusement ou d'intérêt. Ils se lient d'amitié et même plus, puisqu'ils deviennent amoureux l'un de l'autre. Dans ce film, Harold, qui est le fils d'un couple de la bourgeoisie plutôt aisée, subit un peu les invectives de ses parents qui rêveraient qu'il soit un garçon comme les autres, un adolescent comme les autres. Et donc pour son 18e anniversaire, je pense, il lui offre une Jaguar type E. Parallèlement à ça, Harold achète un corbillard qui est plus en lien avec ce qu'il vit, notamment son intérêt pour la mort. Et il va ne faire qu'une seule voiture des deux, donc mélanger la Jaguar type E et le corbillard. Et François Curlet a réalisé cette voiture qui en fait n'avait jamais été faite auparavant. Donc il en a fait faire une vraie Jaguar type E corbillard, qu'il a présenté parfois dans des expositions, notamment au Palais de Tokyo, comme une œuvre en soi, qui est ici utilisée dans un film qui s'appelle Jonathan Livingstone, dans lequel on voit un croque-mort au volant de cette fameuse voiture, errer dans les campagnes, perdu en quelque sorte, qui à un moment donné s'arrête pour faire quelques mouvements de tai chi. Et pour François, c'est d'une part un rêve éveillé, mais c'est aussi l'image de peut-être de la mort, de quelqu'un qui se prépare à la mort. Ce croque-mort qui est là en train de chercher un lieu où il doit peut-être aller chercher un corps, quelque chose de cet ordre-là, tout à coup deviendrait la personnification de la mort et de ce cheminement qu'on fait dans la vie pour accéder jusqu'à la mort et de ce petit temps d'arrêt pendant lequel il fait du tai chi pour éventuellement se préparer à ce qu'il va lui arriver.
Pour ce monde invisible, deux expositions grand tournu. Au CID jusqu'au 3 février. Benoît de Nembourg, Process, avec Marie Porc et Benoît de Nembourg. Au Max, jusqu'au 10 mars. François Curlet. Crésus et Crusoé. Avec Johanna Leroy et François Curlet. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
On voit aussi qu'ils mangent des petites couronnes, des petits biscuits, qui ressemblent à des couronnes mortuaires et qui sont une référence à un film de René Clair, Entracte, dans lequel il y a une scène où on voit quelqu'un qui suit un enterrement et sur le cercueil est attaché des couronnes en pain, comme on le faisait dans l'ancien temps, et un des personnages attrape un bout qu'il mange. Donc à la fois c'est très immédiat, à la fois c'est de l'ordre du rêve, et à la fois c'est très référencé, puisque François Curlet a une grande culture de l'histoire de l'art, mais aussi du cinéma ou de la littérature.